plante pas non plus. Mais tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît quand même.
Non, puisqu'on a un invité.
Non, mais les gens me connaissent quand même.
Ça va, je t'en. Nous accueillons aujourd'hui le père Florent Furpert, œnologue et spécialiste du vin mousseux. Il a fait sa thèse sur le kidouche et la birkat Amazon.
Birkat Amazon, ça c'est vrai.
À l'époque du judaïsme du second temps, vin mousseux et bière locale.
Mais non, mais tu fais n'importe quoi. J'ai jamais fait ça.
Ah, je croyais.
Non, ce temps, c'est vrai que je préfère la bière à la musique, hein, donc elle a pas tout à fait tort. Bon, alors.
C'est choquant.
Bon, on m'a demandé de vous parler des apparitions mariales, parce que on va passer à Fatima cet été. Pour moi, ça sera la première fois. Il y en a parmi vous qui sont déjà allés à Fatima? Ah, Florence. Et Lourdes, il y en a qui sont allés à Lourdes. Moi, je suis allé à Lourdes plein de fois, moi. Ah, plus. Hein. Alors, du coup, voilà, c'est un peu l'occasion. Alors, j'ai pas, je dirais juste un petit mot sur Fatima à la fin, mais mon propos est un peu plus général. C'est donner quelques éléments de discernement, et peut-être même de. Enfin, théologie, c'est un bien grand mot, hein, mais. De réflexion, disons, sur les apparitions en général, les apparitions mariales, et puis un tout petit peu Fatima. Alors, je pensais que c'était très long, mon truc. Je me dis, c'est bien, ça s'écrit tout seul, mais c'est juste que j'ai une police 24, en fait. Hein, donc, c'est écrit très gros, donc en fait, ce sera très court. Je me disais, je suis en forme, là. Ça s'écrit tout seul. Je suis déjà page 7, ça faisait 10 minutes que j'écrivais. Alors, d'abord, une petite introduction. Hein. Je vais faire un truc. Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre d'apparitions Mariale, reconnue officiellement par l'Église, au plan universel, mais ça peut être aussi au plan diocésain, parce qu'il y a...
Une vingtaine.
40.
Ouais.
Non,
une centaine. Non, 17, s'il vous plaît. 17. 17.
Excellent.
17. Clément, qui a été bien formé aux apparitions mariales dans sa jeunesse, c'est que... C'est que je te taquille, hein. Faut rigoler Clément, faut rigoler, il y a plus que ça. Donc, 17 apparitions. Et alors, pour vous donner une idée, la plus ancienne, je vous donne pas les dates de. C'est la plus ancienne de l'apparition, pas les dates de reconnaissance, hein, parce que ça suit pas toujours l'ordre. Hein, mais c'est l'apparition à Guadalupe, hein, au Mexique. Vous avez sûrement entendu parler, ça c'est 1531. Et la plus récente, c'est San Nicolas, je sais pas trop comment ça se prononce. Ça doit être de l'espagnol, je pense, en Argentine. Les apparitions qui correspondent, c'est 1983. Alors, entre Guadalupe et San Nicolas, alors il y en a 15, hein. La Salette, Lourdes, Pontmain, Fatima, et encore quelques autres. C'est pas énorme, surtout si on se dit que c'est, parmi ces 17, il y en a, c'est que par l'évêque du lieu. C'est-à-dire que ça pas, on considère que c'est. Bon, c'est une reconnaissance officielle, il y a déjà une enquête, mais. Peut-être plus tard, ça sera mis au rang universel, surtout si on se rend compte qu'il y a des pèlerins qui viennent de partout, c'est un petit peu ça le critère. Mais ouais, donc il y a aussi des apparitions parmi celles-ci qui sont assez, qui sont pas très connues. Et c'est peu si on compare au nombre d'apparitions sérieuses, disons, parce que des apparitions pas sérieuses, ça, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais des apparitions sérieuses, c'est-à-dire qui seraient potentiellement candidates pour une reconnaissance, dans le dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie de René Laurentin, qui est le grand spécialiste des apparitions mariales au XXe siècle, peut-être le nom vous dit quelque chose, lui, il en met 2400. Oui, donc il y a 2400 apparitions mariales sérieuses, et seulement 17 reconnues. Un truc étonnant, par exemple... c'est que les apparitions de Marie à Catherine Labouré, elle est peut-être même sainte, non, sainte Catherine Labouré. Eh ben, bing, pas reconnue. Non, même pas au plan diocésain. Ouais, ça au niveau, pour le pognon, ça tout de suite, mais pas reconnue. Alors sainte Catherine, elle est canonisée, mais les apparitions, c'est pas reconnu. Enfin, quand je dis pas reconnue, ça veut pas dire que l'Église dit que c'est faux. Attention, ça veut dire que y a pas de, l'enquête n'est pas allée jusqu'à ce que l'Église s'engage sur les apparitions. Comme vous êtes très malin, vous avez revu, vous avez constaté que toutes ces apparitions donc, sont postérieures au XVIe siècle. Alors, c'est pas un hasard, en fait, c'est... Enfin, moi, je vous dis ce que j'ai lu, hein, parce qu'en fait, j'y connais strictement... Enfin, j'y connais rien, hein, ce que je vous dis. Hein, donc moi, je... Non, mais n'importe qui parmi vous aurait pu faire le truc en mieux, mais... Une des raisons, c'est que la Réforme, comme vous le savez, a questionné la place de Marie dans la théologie, peut-être plus encore dans la dévotion, notamment populaire, ce qui a amené une réaction de l'Église romaine, mais en deux sens un peu contraires. Il y a d'une part une tendance, un peu pour réagir, action-réaction, une tendance à valoriser éventuellement les apparitions de la Vierge. Mais il y a une tendance inverse, qui était aussi de faire preuve de davantage de sérieux dans la décision de d'ériger des nouveaux sanctuaires ou des lieux de pèlerinage liés aux apparitions de la Vierge. Et donc c'est au XVIe siècle qu'on a mis en place des procédures canoniques, avec enquête historique, si on pouvait, on demandait aux témoins, bon, si c'était plus ancien, il fallait se contenter des documents, enfin un truc assez bien carré. C'est exactement au XVIe siècle que ça se met en place. C'est le Saint-Office qui s'occupe de ça. Et alors, il y a eu une mise à jour régulière de ces documents donc officiels. Norme, alors le dernier en date, c'est 1978. C'est les normes procédurales pour le discernement des apparitions ou révélations présumées. C'est l'héritière du Saint-Office, donc la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui a fait ce document. Alors, qui énonce, qui donne un certain nombre de critères positifs et négatifs pour aider au discernement. Alors, je donne quelques exemples. En positif, les qualités personnelles du ou des sujets, donc qui ont vu la Vierge ou d'autres choses. Hein. Puis ça, c'est enfin d'autres choses, d'autres personnes, enfin d'autres réalités, on va dire. C'est plus large que les apparitions mariales. Mais donc, un des critères, c'est on examine les qualités de la personne. Si elle est déséquilibrée psychiquement, spirituellement, c'est pas hyper bon signe. Honnêteté, rectitude de la vie morale. Critère très important, docilité habituelle envers l'autorité ecclésiastique. Est-ce que la personne a bien payé le denier de l'Église ? Non, elle n'a pas vu la Vierge. La Vierge, elle payait. Bon, ce genre de critères, hein, vous sentez que hein, c'est quand même, hein, ça reste quand même l'Église catholique. Hein, donc... Un critère intéressant, c'est l'aptitude à revenir au régime normal d'une vie de foi après les apparitions. Alors les critères négatifs, bon, ben, vous pouvez prendre l'inverse de ce que j'ai dit, mais alors, erreur, il y en a d'autres, erreur doctrinale attribuée à Dieu lui-même, à une apparition où Dieu dirait « je suis pas Trinité », ou « mon fils n'est pas Dieu », méfiance. Je dis pas que c'est faux, hein, mais méfiance, méfiance. Alors, en fait, ce critère, il n'est pas si facile que ça à mettre en... Là, comme je le dis, bon, c'est peut-être un peu grossier, hein, mais c'est pas si facile que ça, parce que le document précise, compte tenu toutefois de la possibilité que le sujet ait ajouté, même inconsciemment, des éléments purement humains, voire quelque erreur d'ordre naturel à une révélation vraiment surnaturelle. C'est un petit peu l'analogue de ce qu'on a, de problème qu'on a en herméneutique, hein, quand dans la Bible nous dit la terre est plate. Psaume 27-40, sicut terra plata est, enfin, un truc comme ça. Est-ce que c'est dans ma Bible, c'est dans ma Bible. Est-ce que, alors, vous voyez, quand il y a des erreurs, non mais il peut y avoir par exemple des erreurs historiques, il peut y avoir des choses comme ça, ou des erreurs... au regard de la connaissance qu'on a aujourd'hui du cosmos, on sent qu'il faut pas, c'est pas ça qui vient altérer comme tel la possibilité d'une révélation authentique. Et ça peut même jouer dans le domaine doctrinal. Alors ça, je trouve que c'est quand même assez bien vu. C'est-à-dire que si vous avez une révélation, c'est qu'a priori, il y a un saint, la Sainte Vierge Marie, un saint qui n'est pas forcément Marie, des fois c'est le Christ lui-même, qui veut passer par une humanité pour se faire connaître. Mais le but même de passer par une humanité, ça veut dire aussi qu'on se soumet à ce qui fait la fragilité ou les limites d'une humanité. C'est-à-dire que si on exigeait d'une apparition, qu'elle fasse totalement abstraction de tout ce qu'il y a d'humain dans le voyant, à quoi bon une apparition, vous voyez ? Donc il faut, c'est un critère qui est important, mais qui est pas si facile que ça, à mon avis, à rendre opérant. Je suis toujours dans mon introduction, hein. D'ailleurs, attends, quelle heure c'est ? Il faut pas que... Alors on voit bien deux excès, hein, avec ces apparitions, mariales ou autres, ou bien une trop grande méfiance vis-à-vis des apparitions qui finit par peut-être porter sur le surnaturel en tant que tel. Ouais, c'est un peu comme il y a des fois des gens qui disent, à l'époque du Nouveau Testament, peut-être il y avait des miracles, mais aujourd'hui il n'y en a plus. Enfin, il y a des miracles encore aujourd'hui. Enfin, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, et il y a une manière de récuser tout ce qui est un petit peu étonnant, quand même, reconnaissons-le. Si c'est trop systématique, ça peut en fait dévoiler une forme de méfiance, peut-être un manque de foi, disons-le, vis-à-vis du surnaturel comme tel. En sens inverse, et ça c'est vrai que je l'ai souvent rencontré, une trop grande crédulité, une fascination malsaine pour le merveilleux. J'ai rencontré ça notamment quand j'ai fait des ministères comme prêtre dans des sanctuaires à Lourdes, je pense. C'était souvent, j'ai vu ça chez souvent des pauvres gens, c'est des petits dans la foi, mais où ça prenait une telle importance, cette histoire, qu'on se dit, mais c'est... Il y a quelque chose de beau, mais en même temps, il y a quelque chose de déséquilibré et de pas très juste spirituellement. C'est-à-dire qu'on sent que... une question de dosage aussi. C'est-à-dire que si votre amour de Lourdes fait que vous ne lisez jamais l'Évangile, pour votre vie spirituelle, c'est pas génial, vous voyez. Alors moi, quand je faisais... Donc c'est pas mon truc, d'ailleurs, je pensais pas en parler, mais quand je faisais... parce que j'ai fait un service... d'été, quand j'étais séminariste, on devait guider des pèlerins qui venaient une journée à Lourdes, qui avaient très peu de temps. Et alors le challenge, c'était en une journée, on essayait de leur faire goûter un petit peu qu'est-ce qui était en jeu à Lourdes. Moi, c'est chouette, enfin, moi j'aime beaucoup Lourdes, je trouve que c'est vraiment un très bel endroit. Et quand je parlais des apparitions, donc on faisait le tour dans la ville, on allait là où il y avait Sainte-Bernadette, Soubirous, tout ça, mais j'essayais systématiquement de raccrocher ces apparitions, et même d'une manière générale, la vie de Sainte Bernadette, à quelque chose de biblique. Même à un moment donné, par exemple, vous savez, la Vierge Marie, elle lui demande de manger de l'herbe, je crois, si je me souviens bien. Ben, c'est un truc qui apparaît, c'est pas la première fois que Dieu a demandé à un être humain de manger de l'herbe. Enfin, Dieu, la Vierge Marie, c'est pas Dieu, mais que... Vous souvenez quand est-ce qu'on demande... c'est dans le livre de Daniel, ça veut Daniel 4, je ne me souviens plus. Mais vous voyez, ce genre de truc, c'est formidable, parce qu'on prend des gens qui peut-être ont un attrait un peu déséquilibré pour le merveilleux, et avec ça, on les réinscrit dans la Bible. J'ai fait pareil à Medjugorje, par exemple. Et en fait, les gens étaient hyper contents. Hyper contents. Donc, on voit bien qu'il y a un risque, c'est d'être fasciné par ces éléments-là, et du coup... d'être un peu à côté quand même de la foi théologale. Sans compter que ça peut prendre même d'ailleurs des tournures plus graves. Ça peut devenir des tendances schismatiques, des tendances sectaires, on voit ça aussi, hein, où il y a des petits groupes, et des escroqueries financières. Et l'argent, c'est nous, on fait les choses, on se contente, nous prenons l'argent des fidèles, on n'aime pas trop quand d'autres gens le font à notre place. Alors, j'arrive j'ai fini mon introduction. Oui, il faudra peut-être couper ça. Il faudra couper au montage, ça. Alors, j'ai prévu quatre parties. Première partie, les fondations bibliques. Vous voyez, parce que c'est trop long, là, Clément ?
Non.
Les fondations bibliques, parce que, justement, je pense que c'est important de voir que, en un sens, Dieu continue de faire ce qu'il faisait avant. Deuxième partie, une petite réflexion sur apparition et révélation. Vous voyez, c'est le contre... D'un côté, Dieu continue de faire ce qu'il faisait avant, mais en même temps, il faut distinguer entre les apparitions d'aujourd'hui et la grande révélation biblique. Donc, ça va, c'est corrélatif, ces deux parties. Troisième partie, je vous donne encore des mots pour penser la chose. Vision mystique et apparition prophétique. Faire la distinction entre les deux choses. J'avais pas une quatrième partie ? Ah merde alors. Ah si, voilà. Quatrième partie, alors là j'en arrive peut-être, c'est signification des apparitions mariales, en général, mais pour le coup, je donnerai quelques éléments sur Fatima, même si je suis loin de bien connaître la chose. Mais bon, j'ai quand même... Alors, ben déjà, je suis pas très bien organisé. Ah, les fondations bibliques. Ouais, les apparitions, pour le moment, je prends le mot apparition de manière un peu lâche. Enfin, lâche, c'est-à-dire un peu pas précis, quoi. Donc, ben, la révélation biblique, si on fait le compte, en fait, la Bible, l'Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament, c'est rempli d'apparitions surnaturelles. Je vous donne quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, on a des apparitions d'anges ou d'êtres célestes. Bah, par exemple, le combat de Jacob. En Genèse 32, alors c'est un peu curieux, il y a cette espèce de combat, mais bon, il y a visiblement... et c'est une apparition au sens où c'est le mec, à la fin, bing, dans la hanche à papy Jacob. Donc, ouais, c'est pas... C'est pas qu'une oraison où il s'est endormi sur son chapelet. Hein. Bon, évidemment, l'ange dans le buisson ardent. L'ange dans le buisson ardent. S'il y a une théophanie, on va prendre ce mot technique, manifestation de Dieu, c'est bien sûr Exode 3. Une apparition plus rigolote, c'est en Josué 5. Il y a le chef des armées célestes qui apparaît à Josué. C'est dans le contexte de la conquête. Et vous savez, hein, quand on dit Adonai Tzvaot, hein, Tzava en hébreu, ça veut dire l'armée. Parce que les anges, c'est une armée. Alors pourquoi ça? Parce qu'ils obéissent au doigt et à l'œil. Et le modèle de l'obéissance dans la pensée biblique, c'est les militaires. Bon, bref. Donc, dans le cadre de la conquête, voilà que le chef des armées célestes vient aider l'armée des Israélites. Alors, après, vous me direz, attention, il faut critiquer, démystifier, démythologiser, tout ça. Mais pour le moment, je prends les choses comme elles se donnent, quoi, au sens... Je prends la lettre, elle nous parle en tout cas de quelque chose de cet ordre-là. Ah mince, vous avez une Bible? Je voulais vous lire un truc. C'est le livre sacré des chrétiens, vous avez ça? Il y en a une qui est vachement marrante. C'est dans les... C'est en 2 Maccabées 3, c'est l'apparition d'Héliodore. Alors le contexte, c'est au moment où les Antiochiens, donc on est... c'est les... Les diadoques, hein, c'est ces royaumes hellénistiques qui commencent à être agressifs d'Israël. Et en particulier, il y a un moment donné où il y a Séleucos IV, donc c'est un roi séleucide. Donc ce gars-là, il est à Antioche, en Syrie. Et alors, il manque d'argent, et du coup, où est-ce qu'on prend l'argent? Là où il est. Et l'argent, il est dans les temples. Non, mais ça c'est vrai. Les temples, non, mais ça c'est vrai pour tout. Hein, c'est pas que... Donc tout le temps, les temples dans l'Antiquité, c'est des banques. Ça sert de banque. Mais non, mais c'est pas ce qu'on gage. C'est une manière de... C'est les... Attends, mais où c'est 2 Maccabées dans cette histoire-là? 2 Maccabées... Alors du coup, le mec, il envoie un de ses sbires pour aller piquer l'argent des Israélites qui est dans le temple. Alors les Israélites sont pas trop contents. Hein. Alors... Ah voilà. Bon, alors donc lui, il arrive. Et puis pendant ce temps-là, tous les Israélites, on nous dit ça, donc je suis au verset 18, des gens se précipitaient par groupes hors des maisons pour prier tous ensemble parce que le Saint-Lieu était menacé d'opprobre. Bon, il n'y avait pas que c'était aussi que bon, ils voulaient pas que l'argent s'en aille. Alors les femmes, ceintes de sacs au-dessous des seins, remplissaient les rues. Les jeunes filles qui étaient tenues à la maison couraient les unes aux portes, les autres sur les murs, certaines se penchaient aux fenêtres. Toutes les mains tendues vers le ciel proféraient leurs supplications. Il y a peut-être un peu d'exagération littéraire, mais vous voyez le truc. C'était pitié de voir la prostration confuse de la multitude et l'appréhension du grand prêtre en proie à une grande inquiétude. Oui, en fait, il y a la question financière, mais c'est vrai que aussi la présence d'un païen dans le temple, soyons sérieux, souillait le temple, puisque c'est réservé, évidemment, il y a des degrés de sainteté, et c'est même pas n'importe quel juif qui peut entrer dans le temple. Pensez bien que si c'est un incirconcis qui vient, le bon Dieu va partir, et quand Dieu quitte le temple, c'est la catastrophe, c'est exactement ce qui s'est passé avant l'exil à Babylone. Donc en fait, la menace, c'est pas tellement celle de perdre de l'argent, c'est surtout que en fait, l'alliance soit rompue. Donc c'est quand même très sérieux, ce qui explique cette réaction de prière. Pendant que d'un côté, on demandait au Seigneur Tout-Puissant de garder intact en toute sûreté les dépôts à ceux qui les avaient confiés, Héliodore, donc Héliodore c'est le méchant, hein, Héliodore, c'est le général de Séleucos qui vient prendre l'argent. D'autre part, exécuter ce qui avait été décidé. Il était déjà là avec ses gardes près du trésor lorsque le souverain des esprits et de toute puissance, donc ça c'est bon Dieu, se manifesta avec un tel éclat que tous ceux qui avaient osé entrer là, frappés par la force de Dieu, se trouvèrent sans vigueur ni courage. À leurs yeux apparut un cheval monté par un redoutable cavalier et richement caparaçonné, bondissant avec impétuosité. Il agitait contre Héliodore ses sabots de devant. L'homme qui le montait paraissait avoir une armure d'or. Deux autres jeunes hommes lui apparurent en même temps d'une force remarquable, éclatant de beauté, couverts d'habits magnifiques. S'étant placé l'un d'un côté, l'autre de l'autre, il le flagellait sans relâche. Pauvre Héliodore. Bah lui, c'est Isaac qui exécute. Enfin bon, c'est pas vraiment lui le plus coupable. Hein. Héliodore, soudain tombé à terre, fut environné d'épaisses ténèbres. On le ramassa pour le mettre dans une litière. Le pauvre, il arrivait avec ses médailles, là, tous ses machins, les galons et tout. Il repart, c'est le SAMU qui est obligé de l'exfiltrer. Et cet homme qui venait d'entrer dans la chambre du dit trésor avec un nombreux entourage et tous ses gardes du corps fut emporté, incapable de céder lui-même, par des gens qui reconnaissaient ouvertement la souveraineté de Dieu. Voilà. Il y a une finale édifiante, c'est qu'après Héliodore, il se convertit et il ne veut plus du tout, on ne va plus jamais toucher au temple des Israélites. Exemple, apparition et récit haut en couleur. Hein. Dans le Nouveau Testament, ben, en fait, il y en a aussi beaucoup. Alors, dans l'évangile de Luc particulièrement, pensez à l'apparition de Gabriel à Zacharie et Marie. Ou encore, ça c'est dans tous les évangiles qui racontent, non, pas dans Marc, mais dans les autres, il y a des anges lors de la découverte du tombeau vide. Dans les Actes des apôtres, les anges jouent aussi un rôle. Bah tiens, c'était Pierre, enfin les apôtres ont été libérés par des anges, mais Pierre tout seul en Actes 12, il est gardé par quatre escouades de quatre soldats, et puis il a l'impression d'avoir un songe, en fait c'est un ange. Et là encore, c'est du solide, hein, parce que l'ange, il a cassé les chaînes, il a endormi les gardes, de telle sorte que Pierre, il s'en va, et puis il va frapper à la porte, et puis il y a une servante qui s'appelle Rodée, qui dit « Mais quittez-toi !» Elle dit « Mais je suis Pierre !» Et du coup, au lieu de lui ouvrir, elle va dire « Il a été libéré, il a été libéré !» Elle dit « Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît ?» Il a été libéré, il a été libéré. En fait, c'est comme Jésus. Hein. C'est comme c'est cette histoire-là. Pierre, c'est la ressuscitation de Pierre, en fait, cette histoire-là, comme quasiment. C'est-à-dire que les femmes, la femme va porter la nouvelle et on ne la croit pas. C'est pour ça qu'elle ouvre. Alors évidemment, le plus fondamental dans le Nouveau Testament, ce sont justement ces apparitions du ressuscité. Alors là, on sent bien que littérairement, c'est unique. C'est-à-dire ça se distingue à la fois des Héliodore. Bon, j'y crois, hein, Héliodore, mais enfin, j'y crois. Mais j'y crois plus facilement quand j'ai 2 grammes dans le sang que quand je suis sobre. On sent bien que les apparitions du ressuscité, il y a absolument... Enfin, réfléchissez à ça. Hein, c'est raconté d'une manière très étrange qui, visiblement, n'est pas du tout dans l'exagération du merveilleux, en fait. On sent que c'est unique, les apparitions du ressuscité, même littérairement. Et ça, ça me permet d'introduire une première distinction. C'est la distinction entre la vision et l'apparition. La vision, elle est réelle. Il y a des fausses visions, il y a des gens qui se trompent ou qui veulent tromper les autres. Mais je me mets dans le cas favorable de quelqu'un qui a vraiment une expérience mystique, authentique, de vision. Dans ce cas, si c'est authentique, c'est une vision réelle. Mais elle est réelle en tant que vision, c'est-à-dire en tant que phénomène intérieur. Tout se passe dans la conscience du visionnaire. Bon, il voit des choses de telle sorte qu'il a peut-être le sentiment que c'est aussi vrai que le réel, voire peut-être même, qui sait, plus vrai, plus réel que le réel, mais c'est intérieur. Par opposition, ce qu'on appelle une apparition, alors, c'est des mots bien chargés philosophiquement, mais enfin, je suis bien... L'apparition est réelle, ou si vous préférez, extérieure. Peut-être intérieur et extérieur, c'est peut-être le plus facile à comprendre. Une apparition transite dans notre espace-temps. Un signe de ça, mais qui n'est pas systématique, c'est qu'elle est perçue par plusieurs personnes en même temps, là où la vision, en général, c'est plutôt un individu isolé qui a une vision. Et c'est cet emprunt, par un bout, c'est pas que du spatio-temporel, mais par un bout du spatio-temporel qui définit l'apparition en tant que telle. C'est pas certain que quand on est visionnaire, en tout cas je me dis, peut-être c'est pas si facile que ça de faire la part des choses. Enfin, je vais essayer. Là, on tombe dans des questions bien compliquées sur la conscience et le phénomène et le noumène et tout ça. Mais le principe du visionnaire, c'est qu'il peut avoir le sentiment qu'il voit une apparition. Mais c'est peut-être pas une apparition, c'est peut-être qu'une vision. Alors, je vous donne une définition d'un grand théologien. Il y a peu de réflexions théologiques sur les apparitions et les visions. Ça m'a un peu surpris. Enfin, surpris, pas surpris, mais... Bon, il y a eu, dans les années 50, je crois, un grand colloque fait à Fatima, justement, sur les apparitions. Là, il y a du lourd qui a parlé, notamment des Allemands. En théologie, quand c'est lourd, c'est... Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était de l'allemand. Donc, Karl Rahner a écrit un gros article sur les apparitions. Ça m'a un peu... J'ai découvert ça. Et il est plutôt favorable. Ça m'a encore plus étonné. Et Léo Szewczyk aussi, alors ça doit être, il doit être d'origine polonaise, j'imagine, mais en tout cas, c'est un grand théologien allemand. C'est une génération avant Rahner, il est mort en 2003, je ne sais plus, enfin bref. Alors, Léo Szewczyk donne une définition, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est bien de l'avoir, des apparitions. Je cite, « Ce sont des expériences spirituelles dans lesquelles, d'une manière naturelle, par le biais des sens, voilà, ça c'est très important, d'une manière naturelle, par le biais des sens, se rendent accessibles les réalités invisibles. » C'est vraiment bien, c'est précis, hein. « Se rendent accessibles les réalités invisibles, ça part des réalités invisibles, c'est leur initiative. Comme Dieu, les anges, même les saints, mais aussi, alors ça c'est, ça m'intéresse, les choses créées. C'est pas forcément, ça peut être des... Le tout lié au but surnaturel du salut de l'homme. Donc il y a une finalité salutaire dans ces histoires-là. Ceci concerne, je termine ma citation, également les événements éloignés dans l'espace et les événements passés ou futurs. Donc il peut y avoir des apparitions de choses qui ne sont pas encore produites ou qui sont produites très loin ou il y a très longtemps. Si dans cette définition vous supprimez d'une manière naturelle par le biais des sens, je pense que vous avez une bonne définition d'une vision. Encore, on travaille encore un petit peu cette distinction. La vision mobilise l'imagination sensible. Donc il y a quand même un rapport avec les sens. On parle d'une vision, mais c'est les sens intérieurs. Donc ça mobilise l'imagination sensible tout en restant intérieur au visionnaire. L'illumination, alors ça c'est, ah oui pardon, je travaille une autre distinction entre vision et apparition, mais trois, c'est entre vision et illumination. Donc la vision mobilise l'imagination sensible, oui pardon, c'est ça qui est important, tout en restant intérieur au visionnaire, c'est ça qui la différencie de l'apparition. L'illumination, elle, ne porte que sur l'intelligence du, alors pas du visionnaire, mais de l'illuminé, enfin du gars qui en bénéficie, on pourrait dire son intelligence spirituelle. Donc, imagination, intelligence. En fait, vous pouvez bénéficier d'une grâce mystique au plan de l'imagination sensible et ou au plan de l'intelligence. Si c'est qu'au plan de l'intelligence, c'est une illumination. La vision peut s'accompagner d'illumination, mais ce n'est pas toujours le cas. Et inversement, on peut avoir une illumination sans vision. André Frossard. Est-ce que ça vous dit quelque chose, André Frossard? C'était, moi, quand j'étais jeune... il y a très très longtemps, hein. André Frossard était déjà vieux, mais il avait écrit, André Frossard c'était le fils d'un syndicaliste, ou d'un des fondateurs de la CGT ou du Parti communiste, enfin un truc du même genre, il était dans une famille mi-juive, mi-communiste, et 100% anticléricale, donc pas du tout prédisposé à avoir des tout ce qu'on... Et alors, il s'est converti de manière très brutale, dans une expérience mystique qui a eu lieu alors dans la chapelle où avant on allait nous les Talas, qui était la chapelle des Sœurs de l'Adoration Préparatrice, mais qui à l'époque était, elle a été, le bâtiment était détruit. C'était même rue d'Ulm. Il a eu son apparition rue d'Ulm, André Frossard. Comme quoi tout arrive. Hein, Ah ben, je dis apparition, mais justement. Alors il a raconté comment sa conversion, donc un petit peu son histoire personnelle, sa conversion, comment ça s'est passé. C'était un très grand ami de Jean-Paul II. C'est pour ça qu'il est connu aussi, c'est un très grand ami de Jean-Paul II, André Frossard. Mais alors, il n'était pas du tout content, justement, quand on était imprécis, comme je viens de l'être, où j'ai parlé d'apparition. Et il disait, mais j'ai rien vu. Lui, il insistait beaucoup sur le fait que sa conversion était miraculeuse, mais que c'est simplement qu'il avait compris que le christianisme était vrai. Il dit que c'était uniquement intellectuel. Il n'était pas content quand on disait « Alors oui, la Sainte Vierge, est-ce qu'elle avait une robe bleue ?» tout, mais j'ai dit « Mais non, mais j'ai rien vu de tout ça. » Oui, ça, alors c'est sûr que ça attire moins le... C'est moins... C'est sûr qu'on aime bien que les gens nous décrivent tout ça, est-ce que... Mais non, il disait c'était... J'ai juste perçu que c'était vrai. Alors, si vous prenez Saint Ignace de Loyola, dont auquel, à propos, on a beaucoup parlé cet été, vous vous souvenez peut-être, parce que vous avez dû quand même lire plus ou moins en entier le récit du pèlerin, j'espère. Hein. Ça, faut le faire, hein. Sinon, moi, je vous cause plus. Hein. Ou je vous parle pas, toi, hein. Je te cause pas, toi. Mais donc... Il a eu des visions et des illuminations. Exemple de vision, c'est pendant sa conversion à Loyola. Donc c'est au moment où il a sa jambe là dans le plâtre. Et alors je cite le récit du pèlerin. Étant resté une nuit éveillé, il, alors c'est comme Jules César, hein, il parle de lui à la troisième personne, il vit clairement une image de Notre-Dame avec le saint enfant Jésus. Là, c'est une image, donc là c'est clair, c'est une vision. Et de cette vision, qui dura un notable moment, il reçut une très extraordinaire motion intérieure. Donc cette fois, c'est pas, il y a l'effet surnaturel, hein, Léo Chepsy qui dit que c'est dans un but surnaturel, donc là de conversion. Et il resta avec un tel écœurement de toute sa vie passée, et spécialement des choses de la chair, qu'il lui sembla qu'on lui avait ôté de son âme toutes les sortes d'images qui s'y trouvaient peintes. Ouais, c'est, j'aime bien ce passage, hein, il y a cette vision de Marie et de l'enfant, et... À la fois, il se aversion de sa vie passée et de tous ses péchés, et en même temps conversion et l'idée que bah, maintenant, c'est les images qui vont le mouvoir, c'est les images surnaturelles, enfin de Dieu en tout cas. Enfin, ouais. Donc ça, c'est une vision. Par contre, il a aussi bénéficié d'illumination. Alors la plus célèbre, c'est ce qu'on appelle l'illumination du Cardonnerre. Donc c'est ce petit cours d'eau qu'on n'a pas vu puisque c'est du côté de Manresa, donc c'est vers Barcelone. Alors je cite le récit du pèlerin. Alors qu'il était assis là, à côté de ce petit cours d'eau, les yeux de son entendement commencèrent à s'ouvrir. Il parle des yeux, mais de l'entendement. Non pas qu'il vit quelques visions, mais il comprit et connut de nombreuses choses, aussi bien des choses spirituelles que des choses concernant la foi et les lettres. C'est pour ça que alors Léo Chepsic, lui, parle des apparitions, c'est les choses créées, là, c'est une vision, mais il a compris des choses concernant les lettres. Alors, qu'est-ce que c'était Alors, non, c'est pas comme il dit le... C'est... Non, je sais pas ce que c'était, c'est peut-être simplement une forme de... Je sais pas, peut-être d'amour de la langue ou de compréhension de la manière... C'est un homme qui allait écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres, qui allait guider des âmes, peut-être qu'il y a une affinité, il avait besoin... C'est un soldat qui allait devenir guide d'âme. Il fallait peut-être que... Ben, ce n'est pas les mêmes compétences pour manipuler une épée et l'arme de la parole, si vous voulez. Donc ça peut être quelque chose de ce ordre-là. Mais c'est intéressant quand même. Hein, des choses concernant la foi et les lettres. Et cela avec une illumination si grande que toutes ces choses lui paraissaient nouvelles. Et l'on ne peut pas expliquer tous les points particuliers qu'il comprit alors, bien qu'il y en eut beaucoup, si ce n'est qu'il reçut une grande clarté en son entendement, de sorte que dans tout le cours de sa vie, jusqu'à 62 ans passés, s'il rassemble toutes les nombreuses aides qu'il a obtenues de Dieu et toutes les nombreuses choses qu'il a sues, même s'il les met toutes ensemble, il ne lui semble pas avoir reçu autant que cette seule fois. Je rappelle qu'il a fait 5 ans d'études à Paris. Il dit à côté de l'électron, c'est rien du tout. Donc voilà, une grande, grande illumination intellectuelle pour lui et sans doute aussi pour les âmes qui allaient le trouver, puisqu'il allait être un grand guide d'âmes. Voilà, retenons ça, distinction, apparition, vision, illumination. Voilà, illumination, c'est que l'intelligence. Et sachant qu'a priori, toutes les combinaisons sont possibles. Enfin, une apparition sans corréla intérieur, on ne voit pas comment. Quand il y a apparition, il y a au moins vision. Mais... Alors, ça a l'air clair comme ça, et c'est à ça que servent les distinctions. Après, il y a des moments où, dans le concret, c'est pas si facile que ça de trancher. Je vous donne un exemple biblique. La conversion de Paul en acte 9. Ben, c'est certainement une apparition, parce que il y a quand même d'autres personnes que lui qui sont affectées. Alors, il la raconte trois fois, et puis un coup, on voit, lui, il voit, il entend. Un coup, les gars à côté ne voient pas, mais entendent. Puis un coup, c'est le contraire. Les gars à côté entendent, mais ne voient pas. Bon, il faudrait réfléchir à ça. Mais en tout cas, visiblement, on nous donne des éléments pour dire c'est passé dans le canal de l'espace-temps. Ouais. Mais la libération de... Ah oui, la libération de Pierre en acte 12, pareil, ce que je vous disais, puisqu'il a fallu quand même endormir les gardes. Donc ça suppose qu'on n'avait pas trop d'autres méthodes, j'imagine, qu'un coup de... Et réveiller Pierre, et réveiller Pierre, c'était peut-être plus dur. Pierre, alors, je vous rappelle que Pierre, il était, le lendemain, il allait mourir. Hein. Il était condamné à mort, Pierre. Hein. Alors, je sais pas, peut-être, oui, Pierre était endormi, enfin, peut-être qu'il faisait des cauchemars. Enfin, à sa place, j'en aurais fait. Mais pensez, par exemple, l'annonciation à Marie, c'est pas si clair, je trouve, avec le récit, de dire est-ce que c'est une vision ou une apparition. C'est pas si clair. C'est pas si clair. D'une manière générale, on pourrait dire, pour le contenu, une vision authentique, évidemment, suffit. Si c'est faux, ça n'intéresse personne, mais une vision authentique suffit. Mais vous voyez qu'il y a des cas où, justement, ça ne suffit pas, étant donné le contenu même de ce qu'on veut communiquer. C'est un petit peu ça l'astuce. Le ressuscité, si vous voulez vraiment, pour Jésus, se montrer ressuscité, ça serait un peu fort de café... qu'il se contente de convaincre ses disciples qui étaient ressuscités par une vision sans leur apparaître. Parce que l'enjeu, c'est justement que ce n'est pas que une résurrection idéale, le message qui demeure, on se remet courageusement à l'ouvrage, hein, comme j'ai une fois vu ça dans un ouvrage, ça veut surtout dire qu'on ne se laisse pas, après l'échec, on ne se laisse pas décourager et on repart, c'est surtout ça que ça veut dire. Donc, ça existait. Si on faisait de la théologie comme ça dans les années 60, ça existait, 70. Non, vous voyez que la résurrection, ce qui est essentiel à la résurrection, c'est que le tombeau est vide et que, évidemment, le corps de Jésus est transformé, mais c'est quand même le corps. C'est très, très difficile de comprendre, mais c'est le côté espace-temps, le côté matière est essentiel au contenu qui doit être communiqué. Donc, ça serait presque contradictoire. Enfin, vous allez me dire, Dieu fait ce qu'il veut, mais même pour moi, si les apparitions du ressuscité n'étaient pas des apparitions, mais des visions authentiques, je serais quand même gêné. Mais justement, on voit bien que les évangiles travaillent à nous faire piger que ça n'est pas des visions authentiques. Enfin, c'est authentique, mais c'est des apparitions authentiques. Bon, alors, j'avance à ma deuxième partie. Apparition et révélation. C'est un petit peu le problème que je disais tout à l'heure. Hein. Les miracles, on en avait besoin au début, mais là, on n'a plus besoin. Les apparitions, on avait besoin au début, mais là, on n'a plus besoin. Question un peu naïve, mais pas idiote. Maintenant qu'on a la Bible, qu'on a les récits des apparitions importantes, est-ce qu'on a encore besoin d'apparitions? Alors, je vais répondre. Et la hauteur stratosphérique de ma pensée va vous écraser, oui et non. J'arrête. Alors, oui et non. Alors, d'abord, non. Elles ne sont pas nécessaires au plan de ce qu'est la foi théologale. Je parle donc d'apparitions postérieures à la Bible. Hein. Attention, c'est-à-dire, évidemment, les apparitions du ressuscité, elles étaient essentielles. Mais je parle des apparitions postérieures à la Bible. C'est pas essentiel à la foi, et il semble même que ce qui donne un peu du prix à la foi, c'est qu'elle est capable de se passer de ses apparitions. Ce thème est surtout présent dans l'évangile de Saint Jean. Hein, c'est ce que Jésus dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, le Christ apparaît, mais il y a une béatitude spéciale, et on la redécouvre dans le discours dans la prière sacerdotale, Jésus a prié spécialement pour nous qui croyons au ressuscité sur le témoignage des apôtres. Donc, le Christ, on va dire, ne cautionne pas les voyants, ou pas en premier les voyants, mais les croyants. Ensuite, deuxième élément, alors, qui dit pourquoi c'est pas nécessaire, ou en tout cas, là je vais un peu atténuer, ça n'est pas, c'est d'un degré inférieur à des réalités surnaturelles comme la grâce sanctifiante, les vertus théologales, ce genre de choses. C'est que les apparitions, comme les visions d'ailleurs, comme les illuminations, tout ça, ça relève de ce qu'on appelle des charismes, c'est-à-dire des actes efficaces, des actes de l'Esprit Saint qui servent à édifier une personne ou une communauté, voire l'Église tout entière. Or, la bonne théologie nous dit que le salut, dans son fond, ça n'est pas les charismes, mais la grâce, justement, j'en parlais il y a une minute, la grâce sanctifiante et l'intimité avec Dieu qui en est le fruit. Souvent, les charismes sont plus spectaculaires que la grâce sanctifiante. Ils sont plus spectaculaires que la foi, l'espérance et la charité. Un charisme, pensez, là, dans à quelqu'un qui a un charisme de guérison, il y a des charismes de parole, de connaissance, ça nous bouleverse un peu, hein, quand on est dans, si vous avez déjà assisté à des veillées de prière comme ça, c'est vrai que ça nous frappe. Mais c'est moins surnaturel que, par exemple, un acte de charité théologale. Et ça, on en fait beaucoup, enfin, j'espère, en tout cas, on est appelé à en faire. Oui, un acte de charité théologale, ça peut être très très discret. C'est beaucoup plus surnaturel qu'un charisme comme un charisme de guérison. Quelqu'un comme Saint Jean de la Croix, donc excusez du peu, c'est quand même du haut gradé. Dans la montée du Carmel, il nous met en garde contre une possible contamination justement de la vie surnaturelle par ces charismes. Je cite, l'âme pure, simple, prudente, humble, doit employer toutes ses forces et toute sa diligence à repousser et rejeter les révélations et les visions comme les plus dangereuses tentations. Là, il va quand même assez loin, parce qu'il ne se contente pas de dire à se passer des révélations, à ne pas demander des révélations, mais il dit même à les repousser. Et donc lui, il semblait que ça pouvait nous bloquer, en fait, dans notre vie surnaturelle, d'avoir ces révélations et ces visions. Et là, c'est pas simplement, je pense, des révélations démoniaques, des visions fausses. Toujours dans l'argument du non, enfin, non, mais un peu tremblé, hein, c'est pas, en tout cas, de dire c'est pas si important que ça, cet adage, la révélation est close à la mort du dernier apôtre. J'ai pas réussi à voir de quand ça date, ce truc. Je me méfie quand on dit cet adage ancien, enfin, vous savez, c'est comme quand on nous dit Saint Augustin disait déjà que, puis il y a un texte qui vient et qui visiblement n'est pas de Saint Augustin. Donc je sais pas de quand il date cet adage, mais enfin, il veut dire quand même quelque chose de vrai, c'est que c'est l'apostolicité de la tradition, au sens où les apôtres qui ont connu Jésus avant sa mort et qui ont été témoins de sa résurrection et qui l'ont annoncé, qui ont lancé l'évangélisation, sont les garants d'un dépôt, voilà, qui est l'origine de la révélation. La révélation est close à la mort du dernier apôtre. Et cette révélation s'appuie sur la Sainte Écriture transmise dans la vie de l'Église. Donc il n'y a pas de révélation au sens strict depuis la mort du dernier apôtre. En gros, on va dire, une fois que l'Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament, est fixée, qu'on a mis en route les canaux ordinaires, du magistère, tous ces trucs-là, ben, on a tout ce qu'il faut. Je cite Dei Verbum, donc texte de Vatican II, « L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, parce que quand même, la parousie, devrait y avoir du pyrotechnique, hein, quand même. Hein. On ne devrait pas être déçu, hein. On ne regrette pas sa soirée, je pense, hein, Alors, ça veut dire que ces fameuses révélations, apparitions, visions, illuminations, qu'est-ce que c'est ? Ben, je reviendrai là-dessus, mais souvent on dit que ce n'est pas des révélations publiques, hein, l'expression qu'employait Dei Verbum, mais des révélations privées. Ça implique qu'elles n'ajoutent rien et elles ne doivent pas prétendre ajouter quelque chose au contenu de ce que croit l'Église. Mais elles peuvent, ces révélations, l'illustrer ou le confirmer. Par exemple, Immaculée Conception, ouais, à Lourdes, à Sainte-Thérèse sous Bérous. Je crois qu'elle ne savait même pas ce que ça voulait dire, donc elle se répétait le truc, « Que soy Immaculada Conception », donc parce qu'elle parlait, c'est du Béarnais, ou du Basque, ou du je sais pas quoi, mais enfin, du je sais pas quoi, non pas du Basque, mais dans ces eaux-là, quoi. Enfin, alors elle ne savait même pas ce que ça voulait dire. Et donc elle répétait ça. Ça avait été défini 3 ans avant, je crois. Si je me souviens bien, donc ça vient confirmer quelque chose que l'Église savait déjà. Mais ça confirme, mais ça n'ajoute pas. Comme les apparitions ne sont pas nécessaires à la foi théologale, ne pas y croire n'est pas un péché contre la foi. Oui, on peut très bien être un saint et ne pas, entre guillemets, croire à Medjugorje, qui n'est pas reconnu, ou même croire à Lourdes, qui pourtant est reconnue par l'Église. Même si Fatima, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est bien reconnu par l'Église, mais quand dire mon père, pardonnez-moi parce que je crois pas à Fatima, je suis désolé, si vous voulez que je vous absolve, il faut me donner un autre truc, parce que ça, c'est pas un péché. C'est pas un péché de pas croire à Lourdes. En revanche, ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction, il me semble que refuser systématiquement, et surtout de manière a priori, toutes les apparitions, alors mariales ou d'autres natures, hein, mais je trouve que c'est pas très bon signe. Ça risque de correspondre à une vision un peu scientiste du monde, où la foi serait une interprétation du monde, mais pas un espace d'action pour Dieu. Ça, c'est un truc qui me frappe de plus en plus, c'est que je trouve qu'un des grands travers de notre mentalité contemporaine, en Occident en tout cas, hein, c'est que on réduit un peu la foi à une manière de comprendre les choses, de comprendre le monde, comprendre le mal, comprendre la vie, comprendre... Donc, une interprétation du monde. Il y a cet aspect-là, évidemment, hein, quand on dit, quand Paul dit en 12.1 « Renouvelez votre manière de penser », ça veut dire « Renouvelez votre interprétation des choses ». C'est très important, la métanoïa, c'est ça. Mais si nous renouvelons notre interprétation, c'est parce qu'en la renouvelant, nous ouvrons un espace d'action à Dieu, et c'est sur la base de cette action que nous changeons notre manière de voir le monde. C'est-à-dire que, et encore les actes, c'est le meilleur des exemples, Dieu agit, mais en permanence, en permanence, en permanence. Alors ça, je trouve, c'est un peu, souvent les fois, les intellos, là, en général, plus vous êtes intellectuel, plus vous êtes soumis au danger de réduire la foi à une manière d'interpréter le monde. Même si c'est une manière surnaturelle, je trouve qu'il faut se dire, mais à un moment donné, si Dieu a envie de me donner un coup sur la tête, mais même physiquement, c'est possible. Enfin, vous voyez, ça peut être une grâce surnaturelle. Faut pas le... Non, mais ça va jusque-là, quand même. Alors, je trouve que quelqu'un qui nierait systématiquement les apparitions, ou la possibilité des apparitions, il faut qu'il s'interroge, justement, sur sa manière de comprendre la foi. Je cite un texte sévère de Balthazar, pas le roi mage, mais le théologien suisse. C'est dans un bouquin de 71, alors c'était pas les années favorables, hein. Enfin, vous me direz, on n'a jamais eu des années favorables, mais... Donc, c'est dans un livre qui s'appelle « Éclaircissement ». Pourquoi vous rigolez, c'est le titre du... Non, mais c'est le titre... C'est... En allemand, c'est « Klarstellungen ». J'ai regardé sur Google Traduct, et il m'a dit « Éclaircissement ». Ça n'a rien de drôle. Écoutez la citation. « L'Église contemporaine a pour une bonne part perdu ses traits mystiques. » Voilà, hein. Pour devenir... Non, mais écoutez. Pour devenir une église de discussion permanente, de conseils, de congrès, de synodes, de commissions, d'académies, de partis, de fonctions, de structuration et de restructuration, d'expérimentation sociologique et de statistique. Il n'était pas de bon poil, hein, Alors, il exagérait, il n'était pas de bon poil, mais le risque est quand même réel, hein. Moi, je trouve que c'est un des bénéfices que je vois dans ces apparitions, c'est qu'elles nous mettent un petit peu... Elles viennent nous chatouiller, à un moment donné, de dire, mais est-ce que c'est quoi ta foi, quoi ? Est-ce que c'est juste une foi d'un télo ou c'est un peu plus que ça ? Alors, il faut que j'avance. J'en arrive. Oh là là, oui, il faut que j'avance beaucoup, mais c'est bien, j'ai presque fini. Ah non, j'ai pas presque fini, merde, mais qu'est-ce qui se passe là ? Oh là là, mais je suis très lent, c'est pas possible. Bon, je vais à toute vitesse. Faut distinguer les visions mystiques, c'est ma troisième partie. Vision mystique et apparition prophétique. Je trouve que c'est une distinction plus éclairante que celle de révélation publique et privée. Même si elle est plutôt traditionnelle, hein, révélation publique, révélation privée, comme dit Verboom, mais je trouve plus intéressant de distinguer entre mystique et prophétique. Une vision mystique, un phénomène mystique en général, ça concerne en premier lieu le bénéficiaire immédiat. C'est pour sa croissance spirituelle personnelle. Ça peut être pour l'encourager dans une mission ecclésiale, mais c'est quand même d'abord lui le bénéficiaire du phénomène. Bien sûr, quand quelqu'un a reçu comme ça une vision mystique, que ça l'a aidé en gros à devenir un saint, admettons qu'il ait raconté ça, qu'il ait fondé un ordre, que du coup on lise ses écrits, au bout d'un moment, cette vision mystique très personnelle, elle vient nourrir d'autres personnes. Mais ce n'était pas le but immédiat. Un exemple comme ça de vision mystique, c'est Sainte Gemma Galgani. Donc ça, c'est fin du 19e, elle n'a pas vécu bien, bien vieux, la pauvre Gemma Galgani. Elle a eu des visions, alors des tas de visions. Alors c'était donc son ange gardien, mais aussi d'un gars dont j'ai découvert l'existence en préparant ce truc, Saint Gabriel de la Dolorata, qui était un religieux passionniste mort avant sa naissance, la naissance de Gemma. Avant la naissance de Gemma Galgani. Et en fait, pourquoi elle a eu des visions de cette personne, c'est qu'elle, elle cherchait sa vocation, elle voulait être religieuse. Elle n'a jamais réussi à l'être, mais grâce à ses visions, ça lui a donné beaucoup de courage pour obtenir des religieuses passionnistes qu'elles viennent s'installer dans la ville où elle habitait. Elle est morte avant que les religieuses viennent, donc elles ont fini par arriver, ces religieuses passionnistes, donc du même ordre que ce Saint Gabriel. Et en fait, quand on regarde apparemment l'ordre des religieuses passionnistes, après les visions de Sainte Gemma Galgani, elles ont une période de fécondité spirituelle incroyable. C'était d'abord pour elle, pour l'aider, puis ensuite, évidemment, ça a touché d'autres personnes. Par opposition, l'apparition prophétique a dès le début un caractère public. Il est demandé aux voyants de l'apparition de s'adresser immédiatement à son entourage, et finalement, et parfois même à l'Église tout entière, avec une exigence qui est souvent... il y a souvent une requête, mettons, si c'est l'apparition mariale, de la Sainte Vierge. Ça peut être une exigence de prière, ça peut être une exigence de conversion, ça peut être des trucs, parfois, genre, construisez-moi une chapelle ici. Mais ça, c'est pas une vision mystique, c'est une apparition prophétique. Alors, un exemple de ça, c'est Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui a des visions du Christ. Alors, certes, c'est aussi pour elle, mais ce que Jésus lui demande, c'est de propager dans l'Église, commencé par l'Église de France, la dévotion au Sacré-Cœur. Et avec le recul, les historiens nous disent, mais c'est ça qui a permis vraiment de dépasser les impasses, c'est pas beau ça, de dépasser les apories du jansénisme. C'est vraiment le Sacré-Cœur a vaincu Jansénus, en fait. Donc c'est une grande importance pour l'Église de France, cette histoire-là. Ben, ça, c'est typiquement prophétique. Un truc intéressant, c'est qu'une vision mystique est toujours plus forte et elle influence davantage la vie du voyant, la vie spirituelle du voyant, par définition même, on va dire. Et d'ailleurs, ça arrive souvent, ces visions mystiques, à des personnes qui ont déjà un certain degré de sainteté. Les porteurs de visions prophétiques, alors ça peut être des gens qui sont déjà bien engagés dans la vie chrétienne, mais ça peut être aussi des gens pas spécialement pieux, pas spécialement saints, ça peut être des enfants, ça peut être des bergers, enfin, ça peut être un peu n'importe qui, j'allais dire. Enfin, on a l'impression qu'on choisit différemment les bénéficiaires des visions mystiques et des apparitions prophétiques. Et les apparitions, une de leurs caractéristiques, c'est que comme elles transitent par l'espace-temps, bon, ça fait quand même un petit choc, mais d'une certaine manière, ça influence peut-être pas tellement plus la vie spirituelle personnelle de la personne qui reçoit l'apparition que n'importe quel phénomène qui passe par l'espace-temps. Alors, j'exagère un petit peu parce que j'imagine que si on voit la Vierge, quand même, on dit au moins le lendemain son chapelet avec un petit peu plus d'allant. Mais voyez que c'est beaucoup plus extérieur, une vision mystique, ça vous travaille quasiment à même votre vie spirituelle, j'allais dire. Si c'est une apparition... L'apparition prophétique, bon, c'est important que vous soyez un bon témoin, que vous dites, j'ai vu telle chose, voilà, je ne peux pas vous dire qui c'est, mais elle était comme ça, elle m'a dit de vous dire ça, mon travail s'arrête là. Alors ça explique pourquoi les bénéficiaires d'apparitions prophétiques ne sont pas tous devenus des saints. Ça, c'est souvent le cas, c'est pour ça que je vous dis, ça a quand même un effet, mais c'est un effet, il faut quand même intérioriser la chose, là où la vision mystique est d'emblée intérieure. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a un exemple. Alors moi, j'aime beaucoup ce petit bonhomme. Petit bonhomme, il n'est pas resté petit bonhomme tout le temps. Mais Maximin, à la Salette, en fait, il a eu donc cette apparition à la Salette où ça, elle était pas contente. Elle était comme Balthazar. Hein, elle était pas de bonne humeur à la Salette. On a pris grave. Hein, on a pris cher à la Salette. Mais bon, Maximin, en fait, après, il a eu une vie assez chaotique. Alors, pas scandaleuse, mais il a essayé différents trucs, il a essayé des études de médecine, il a raté, après il était zouave pontifical, puis il a démissionné, on ne sait pas très bien pourquoi, et il est mort, mais dans un dénuement total, complètement seul. Enfin, c'est assez triste, en fait, je trouve, la vie de Maximin, mais il n'a jamais revenu sur ce qu'il avait vu. Vous voyez, c'est le bon témoin de l'apparition prophétique. Alors après, peut-être que dans le cœur de Dieu, il était saint, moi j'espère que oui, Mais c'est pas le modèle, voilà, c'est pas Sainte-Bernadette sous Birousse, là, pour le coup, là, c'est l'histoire est très... Enfin, on se dit, c'est nickel, quoi, y a rien à enlever avec Sainte-Bernadette. Voilà, parce que c'est pas une vision mystique, c'est une apparition prophétique. Comme le dit un des biographes de La Salette, Yves Chiron, à propos de Maximin, je cite, « L'apparition dont il avait été bénéficiaire, alors, l'avait ramené à une foi chrétienne solide, quand même, ça c'est pas négligeable, mais n'avait pas détruit son caractère, ni ôté tous ses défauts. » Et puis, dans les deux minutes qui me restent, quatrième partie, signification des apparitions mariales. En fait, moi, je vois deux points importants dans les apparitions mariales, qui sont les plus fréquentes et qui, donc, méritent une attention particulière. Premier point, Marie est, avec le Christ, le seul être humain ressuscité. Et je me dis, rien que de ce point de vue, ces apparitions, c'est quand même un peu... analogue aux apparitions du ressuscité. Je trouve qu'il y a comme une confirmation de son état glorifié, corps et âme. Voilà, il y en a plusieurs, ça se répète. Enfin, je trouve que c'est pas mathématique, mais d'un côté, je trouve que ça nous confirme dans ce que nous croyons, c'est qu'il n'y a pas que Jésus de ressuscité, il y a aussi Marie. Et puis alors, je recite Léo Shevchik qui dit, pas uniquement pour Marie, mais pour toute apparition, c'est comme si une personne proche seulement spirituellement et intentionnellement avait tout à coup une présence réelle dans l'espace vital humain, était présente dans toute la taille de sa personne, de sa signification, de son rôle et de son exigence. Et puis là, il parle de Marie. Une apparition de Marie révèle de manière réelle et personnelle tout le mystère de Marie devant le voyant et par son intermédiaire devant les fidèles. Alors c'est tout bête de dire ça, mais il faut encore le dire, c'est que je me dis une apparition mariale, ça nous fait mieux connaître Marie. C'est tout bête, mais voilà, elle apparaît, elle nous dit des choses, on essaie de comprendre ce qu'elle nous dit. Et dans notre foi, Marie, elle a une place importante. Je me suis dit, on pourrait presque parler de l'expression une moi, mais d'un toucher marial. Je dis toucher parce que c'est sensible, hein, ça passe par l'espace-temps. Et j'ai relié, je vois ça un peu en rapport à Jean 19, hein, quand on nous dit le disciple, au pied de la croix de Jésus, le disciple a pris chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire que nous prenons Marie chez nous, finalement, sans doute beaucoup de choses, mais je me dis peut-être que les apparitions mariales, dans leur côté matériel, enfin espace-temps, il y a une espèce de proximité, alors charnel, bon, c'est difficile de... Enfin oui, il y a un peu de cet ordre-là, comme un toucher marial. Et ça me paraît important vu la dimension maternelle du rôle de Marie dans l'Église. Voici ton fils, hein, Jésus dit à... Et puis deuxième point, pour la signification des apparitions mariales, c'est que Marie représente personnellement l'Église entière. Et donc une apparition mariale, il me semble, a une portée ecclésiale plus forte que si c'est un autre saint, comme le saint Gabriel de l'Adorata, qui était sûrement une très, très brave personne, d'ailleurs il a été canonisé, mais bah, Marie c'est toute l'Église. Une apparition mariale, d'une manière ou d'une autre, c'est l'Église qui prend conscience d'elle-même d'une manière nouvelle. Et d'ailleurs, les apparitions récentes le montrent, puisque les messages qui les accompagnent concernent souvent une partie importante de l'Église, et parfois même toute l'Église universelle. Et du coup, je trouve que ces apparitions, elles nous mettent aussi, elles nous font mieux connaître Marie comme personne, et mieux aimer Marie, mais elles nous font, on peut le souhaiter, aussi mieux connaître et mieux aimer l'Église. Ça, je trouve qu'on a quelque chose d'important pour les apparitions mariales. Alors, j'avais dit que je dirais un mot sur Fatima. Ben, en fait, ces deux points, on le voit assez bien chez Fatima, pour les apparitions de Fatima. Donc Fatima, on le reverra sans doute plus en détail pendant le pèlerinage, pendant les JMJ, mais ces six apparitions de Marie, entre le 13 mai et le 13 octobre 1917, à trois petits-enfants bergers, donc Lucie et ses deux cousins, François et Hyacinthe. Alors Marie fait des demandes au cours de ces apparitions, mais on peut les ramener à trois. Première demande, récitation quotidienne du rosaire et prière pour le salut des âmes. Petit 2, consécration du monde et de la Russie, en particulier au cœur immaculé de Marie. Et petit 3, dévotion des premiers samedis de 5 mois en réparation des offenses au cœur immaculé de Marie. Alors, il y a un grand théologien hongrois qui s'appelle Stanley Yaki, qui a enseigné après l'épistémologie, enfin, des tas de trucs, mais c'est vraiment un bon théologien. aux États-Unis. Il a écrit un bouquin, j'ai découvert ça aussi, j'ai découvert des trucs en préparant ça, que sur Fatima et même sur les apparitions, sur le miracle du soleil. Attends, je sais pas pourquoi il s'intéressait à ça, mais... Et dans ce bouquin, il dit que c'est étonnant de voir comment les apparitions de Fatima ont renouvelé la théologie mariale. On ne sait pas exactement, on ne pourrait pas forcément dire par quel mécanisme, mais il dit, avant ces apparitions, fin 19e, début 20e, c'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur de la théologie en général et de la théologie mariale en particulier. C'était un petit peu voilà, très pieux, mais pas très... Et il remarque qu'après Fatima, la théologie mariale est devenue beaucoup plus biblique et dogmatique. On connaît mieux Marie, alors je ne saurais pas dire que c'est, qu'elle est lien de cause à effet, je ne sais pas, mais il y a une coïncidence qui est quand même intéressante. On se penche davantage sur le mystère personnel de Marie. On comprend, on voit davantage que s'intéresser à Marie en théologien, ce n'est pas perdre son temps. Et puis, il y a aussi la demande donc, de consécration du monde et de la Russie, alors en particulier de la Russie, parce qu'on est juste avant la révolution d'octobre et l'instauration du communisme, qui illustre quand même un des grands phénomènes du XXe siècle, qui est la diffusion de l'athéisme. C'est quand même un grand défi pour l'Église, ça, hein, surtout en Occident, parce que c'est surtout là que ça a eu lieu, mais comment on se positionne dans un monde qui est devenu athée? C'est très unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a des individus athées, il y en a toujours eu, mais c'est, normalement, c'est des élites intellectuelles ou révoltées, mais c'est, là, c'est un phénomène de masse, l'athéisme. Comment l'Église doit se situer face à ça? Ben c'est comme si Fatima nous esquissait à la fois, nous prévenait du, enfin, nous avertissait du problème à venir et nous donnait une espèce de solution de principe qui est la consécration du monde et à l'époque aussi de la Russie à son cœur immaculé. Ce qui a été fait liturgiquement, alors il y a des grands débats, je ne vais pas rentrer là-dedans, des grandes polémiques, mais justement je trouve que ce n'est pas cette question des polémiques qui est importante, c'est de se dire, ça veut dire quoi consacrer le monde au cœur de Marie? Certainement, il y a une cérémonie liturgique. En gros, il semble quand même que, on dit que ça a été fait en 1954 par Pie XII. Le monde a été consacré. Il a institué une fête qui est Marie-Reine, d'ailleurs, fêtée le 31 mars. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus? Je vous dis, si c'était juste une cérémonie liturgique, la liturgie, elle doit aussi passer dans notre vie quotidienne. Et donc, moi, la question que je me suis posée, ça, c'est pas Stanley qui vient, c'est moi tout seul, donc c'est peut-être n'importe quoi, mais je m'étais jamais posé cette question, mais comment, dans l'exercice du sacerdoce baptismal, il y aurait peut-être quelque chose, et donc de la mission de consacrer les réalités terrestres au royaume de Dieu, c'est ça l'essence de du sacerdoce baptismal, est-ce qu'il n'y aurait pas une place pour consacrer le monde au cœur de Marie? Vous voyez, en gros, Vatican II nous dit, la mission propre des laïcs, c'est d'ordonner toutes les choses, la famille, le travail, la société, enfin tout ce qu'on fait dans le monde, de l'ordonner au royaume des cieux. Eh bien, je me dis, est-ce que Marie à Fatima nous dit pas, mais si vous voulez lutter contre l'athéisme, il y a un moyen dans cette ordination au royaume de Dieu, il faut que vous m'y mettiez en fait, il y a quelque chose. Alors, voilà, je ne sais pas si quelqu'un a déjà écrit là-dessus ou réfléchi à ça, mais ça m'a, en tout cas je me suis arrêté là. Et c'était très long et casse-pied, et je m'arrête là, il n'y a pas de questions. Allez, voilà, c'est terminé. On va dire les complis.
Et au lit.
Et la vaisselle. Merci pour ta Bible. Merci.